Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois de mars 2026. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre le cycle des inquisiteurs. Mais attention, je vous rappelle que j'emploie ce terme pas uniquement en référence à l'organisation de la période médiévale en lien avec l'Église catholique. J'emploie le terme de inquisiteur au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire des ecclésiastiques, des juges, des magistrats, des philosophes, des théologiens qui se sont opposés à certains courants philosophiques et mystiques qui les ont combattus et, dans une certaine mesure, qui les ont persécutés. Donc, dans un sens beaucoup plus large, je pourrais employer le terme d'inquisiteur de la pensée. Dans le premier épisode, je m'étais concentré spécifiquement sur la chasse aux hérétiques de l'Antiquité, de la période médiévale et même des temps modernes. Et bien aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur la chasse aux sorcières. Alors évidemment, entre l'hérétique et la sorcière, il y a des croisements. Les deux histoires vont se chevaucher au cours de l'histoire, et parfois même, elles seront confondues. Mais néanmoins, nous allons voir que le sujet spécifique de la sorcellerie mérite un épisode dans ce cycle d'émissions. Alors pour commencer, voyons le plan de cette conférence. Tout d'abord, une petite introduction. Concrètement, c'est quoi la sorcellerie? À quoi on fait référence? Ensuite, une première partie. On va parler de l'histoire de la sorcellerie, comment ce domaine ou cette matière accompagne l'histoire de l'humanité. Dans une deuxième partie, nous traiterons spécifiquement de la grande chasse aux sorcières, c'est-à-dire les événements qui se sont déroulés entre, pourrait-on dire de façon extrêmement élargie, entre le 15e siècle et le 18e siècle. Et puis, dans une dernière partie, nous allons parler de l'héritage des sorcières. Que reste-t-il de cette inquisition contre la sorcellerie? Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Qui se réclame encore de la sorcellerie? Y aura-t-il à venir une prochaine chasse aux sorcières qui aura lieu au 21e ou peut-être au 22e siècle? Alors commençons directement avec une introduction. Qu'est-ce que c'est concrètement que la sorcellerie? Eh bien, pour reprendre la définition, le mot vient du latin sortiarus, qui veut dire jeter des sorts ou diseur de sorts. En grec ancien, on trouve le terme de goétia, qui donnera goétie ou l'art d'invoquer t'aider. En donnant les définitions du Larousse, pratique magique en vue d'exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain, sort, envoûtement, possession, sur des animaux ou des plantes, maladie du bétail, mauvaise récolte. C'est encore une croyance qui prévaut dans certaines sociétés ou groupes sociaux, selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent être attribuées à l'action malveillante ou invisible d'individus. Et enfin, c'est la manifestation d'événements extraordinaires, d'origine mystérieuse, qui semblent relever du domaine des pratiques magiques ou des forces surnaturelles. Alors, ça, ce sont des définitions modernes, évidemment, qui nous disent la sorcellerie, c'est quelque chose de négatif, en association plus ou moins lointainement avec la notion de magie noire, donc c'est toujours de facto mauvais. C'est pour faire de mal, c'est pour envoûter des personnes, c'est pour faire des philtres d'amour, invoquer des démons, et que sais-je encore. Mais en réalité, la sorcellerie est un terme beaucoup plus complexe. Sorcellerie, dans son étymologie première, c'est celui qui peut dire des sorts, qui peut interroger le destin. Alors, là, vous pourriez penser évidemment qu'on se limiterait à une certaine forme de divination pour voir l'avenir. Eh bien, il n'en est rien. Dire les sorts ou interroger le destin, ça veut surtout dire altérer, modifier, changer le destin. Donc le sorcier, c'est celui qui, par des forces invisibles, entités, lois de la nature, tout un tas d'autres éléments de l'ordre du plan de l'invisible, vont tenter d'agir sur le réel, c'est-à-dire de modifier le destin, de modifier la réalité dans un but divers et varié. En ce sens, dans son étymologie première, la sorcellerie n'a aucune connotation bénéfique ou négative. Ce sont les actions des individus, bonnes ou mauvaises, qui vont définir la nature de l'acte. Une personne peut faire un sortilège, modifier le destin, afin qu'une personne malade d'une maladie incurable puisse guérir de façon surnaturelle de cette maladie. C'est de la sorcellerie, pourrait-on dire. Invoquer une entité pour que cette personne soit sauvée. Mais dans un autre sens négatif, cette fois-ci, une personne peut invoquer des forces de l'invisible pour altérer le destin, afin qu'une personne et du malheur, et qu'il lui arrive tout un tas de tourments divers et variés, malédictions, envoûtements, tout ce que vous voulez. Donc, la sorcellerie, dans son étymologie et son sens premier, c'est une activité qui touche la notion de l'invisible dans le but de modifier, d'altérer ou de transformer la réalité. Donc, une pratique magique au sens beaucoup plus large, bien entendu. Alors, comment cette simple définition, comment cette notion originale de sorcellerie est devenue la victime, enfin, du moins ses adeptes sont devenus les victimes des inquisiteurs au cours de l'histoire? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre. Alors voici tout d'abord donc une première partie, l'histoire de la sorcellerie. Nous allons évidemment faire un petit topo sur les origines de la sorcellerie. Ensuite, nous parlerons des sorcières ou des adeptes de la sorcellerie dans l'Antiquité. Nous parlerons de la sorcellerie face à la loi au cours de l'histoire, dans l'Antiquité, mais aussi dans la période médiévale, les temps modernes et même la période contemporaine. Ensuite, nous tenterons d'identifier au cours de cette histoire qui sont les sorcières qui se revendiquent de la sorcellerie ou qui fut désignée comme étant une sorcière ou un sorcier. Et enfin, en dernière partie, nous parlerons de qui sont les accusateurs, qui sont ces fameux inquisiteurs qui ont pourchassé les sorcières ou les adeptes de la sorcellerie. En premier lieu, il convient de retourner dans le passé pour comprendre quelles sont en fait les origines de la sorcellerie et des gens qui pratiquent cette discipline. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que la sorcellerie ne désigne pas une pratique unique, mais un ensemble de représentations, de croyances et d'accusations qui varient selon les époques et les cultures. Tout d'abord, la sorcellerie au niveau de la société. La magie, au sens beaucoup plus large, est omniprésente dans les sociétés anciennes. La médecine, la religion, la protection, la politique, etc., etc., tout ceci se mélange avec une certaine forme de sorcellerie. Au niveau des lois, il y a une distinction qui s'opère dès les premiers temps entre la magie légitime et la magie dite interdite. En gros, il y aurait une bonne magie et une mauvaise magie. Au niveau psychologique, la notion de sorcellerie, c'est-à-dire interroger ou modifier le destin en utilisant des forces de l'invisible, eh bien, ça sert à expliquer l'inexplicable. Pourquoi intervient un malheur? Pourquoi une personne va mourir? Pourquoi une maladie intervient et frappe une personne, un groupe ou un village? Ensuite, les objectifs. Toujours pareil, l'objectif de la sorcellerie et de la magie plus largement est d'agir sur le réel par des méthodes supranormales. Alors, quand est-ce que cette histoire commence? À partir de quand apparaît la sorcellerie? Eh bien, c'est toujours pareil, quand on remonte au temps de la préhistoire et protohistoire, nous n'avons pas de sources écrites, nous n'avons pas spécialement de représentations et de témoignages directs, bien entendu. De ce fait, on ne peut pas définir une date de début spécifique pour la sorcellerie. En revanche, dès que la conscience humaine apparaît, et dès que les personnes vont prendre conscience, ou du moins tenter d'expliquer quelle est leur place dans l'univers pour répondre aux trois questions fondamentales, d'où viens-je, que suis-je et où vais-je, eh bien, ils ont observé la nature, son fonctionnement. Et évidemment, les humains, tout comme nous aujourd'hui, ont été confrontés à la maladie, ont été confrontés à la mort, aux cataclysmes, aux tempêtes, aux dangers divers et variés de l'existence, mais également aux contrariétés, aux souffrances personnelles. Et donc, au-delà des moyens tout à fait rationnels pour y répondre, certaines personnes ont commencé à tenter d'intervenir sur cet état de fait par des méthodes surnaturelles. Alors, vous allez me dire pourquoi ces méthodes surnaturelles? Eh bien, c'est la même façon que les religions. Les religions ont tenté de donner une raison logique au fonctionnement cosmogonique de notre monde. Pourquoi le soleil se déplace? Pourquoi la lune se déplace? Pourquoi les étoiles, etc.? Pourquoi les tempêtes et le vent, etc.? Donc, on a conceptualisé toute cette notion des dieux ou des forces de l'invisible qui animent le monde. Et donc, toutes ces forces invisibles, eh bien, on peut peut-être dialoguer avec elles. C'est le propre d'une religion que de dialoguer avec l'invisible. Eh bien, la sorcellerie, c'est la même chose, mais d'une sorte d'application pratique. Si une entité déclenche le vent, puis-je invoquer cette entité pour déclencher le vent moi-même? C'est ça la base même du raisonnement de la sorcellerie. Donc, c'est le fait d'agir avec ces forces de l'invisible sur la réalité. Donc, la sorcellerie est aussi vieille que la religion et qui est même aussi vieille que la conscience humaine. Donc, il y en a toujours eu et dans toutes les sociétés. Comment peut-on l'illustrer sur les pratiques de sorcellerie des anciens temps? Eh bien, vu qu'on n'a pas de source directe, on va utiliser le travail, la méthode de l'anthropologie. On va observer le matériel archéologique à notre disposition, des fétiches, des petites statuettes, des petites gravures, des pictogrammes, diverses choses qu'on retrouve dans les sociétés anciennes préhistoriques, et on va les comparer avec des sociétés dites primaires, c'est-à-dire des sociétés qui, encore au XIXe siècle ou début XXe siècle, vivaient sensiblement avec le même mode de fonctionnement que les sociétés de la proto-histoire préhistoire. Donc sans usage de l'écriture, sans architecture complexe, sans système social complexe. Ce n'est pas un dénigrement de dire ça, c'est simplement observer un état de fait à un moment donné. Et en comparant le matériel archéologique de la préhistoire et en comparant le mode des sociétés dites archaïques, encore existantes au 19e, début 20e, eh bien on peut voir s'il y a des corrélations entre les deux. Et donc on peut attester, notamment via certaines sociétés africaines, certaines sociétés d'Amérique du Sud, d'Australie, etc., certains types de pratiques qui font intervenir des notions de sorcellerie, c'est-à-dire des moyens magiques pour influencer le destin, tout simplement. Donc, ça commence très tôt, cette histoire. Les choses vont s'arranger un petit peu quand on va arriver à l'Antiquité, puisqu'à partir de là, en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, en Grèce, etc., on va commencer à avoir des sources qui vont matérialiser quelles étaient concrètement les pratiques de sorcellerie dans les sociétés de l'Antiquité. Alors, voyons un peu plus ce qu'on nous en dit. Dans l'Antiquité, il y a cette distinction qui arrive vraiment de façon structurée entre la religion officielle, celle des prêtres, avec le rite public, et les pratiques magiques marginales, c'est-à-dire hors du cadre de la religion, où on va désigner le terme de sorcier ou de sorcière. Alors, ce découpage, c'est avec des termes rétroactifs, bien sûr. À l'époque, dans l'Antiquité, on n'employait pas forcément le terme de sorcier ou de prêtre avec une distinction. Mais ça va vous illustrer la problématique. Déjà dans la préhistoire, il y avait des codes qu'on appelle la loi des totems et des tabous, les interdits divers et variés dans une société. Et donc, quand l'action d'un prêtre ou d'un chaman de l'époque était conforme aux tabous et aux totems, eh bien on parle de magie illicite, et en général de religion. Et puis quand on est hors des tabous et des totems, eh bien là on parle d'une magie marginale ou d'une sorcellerie marginale qui défie les règles légales, peut-on dire, du code de la société. Et donc on parlera de sorcellerie si on employait le langage moderne. Quand on arrive à l'Antiquité, cette distinction devient beaucoup plus franche. On voit par exemple dans l'Égypte antique, on a un clergé bien organisé, en Mésopotamie aussi, en Grèce aussi, etc., avec des prêtres qui font le culte public. Et ce culte public, on peut considérer que d'une certaine façon, c'est des pratiques magiques. Sauf que vu qu'elles s'incluent dans la religion, on n'emploie pas spécifiquement le terme de magie, en fait. Mais ça n'empêche pas que dans ces sociétés antiques, il y avait tout un tas de personnes qui pratiquaient des rites de la même façon, hors du cadre religieux, et donc de ce fait, qui tentaient d'entrer en contact avec les forces de l'invisible pour agir sur le réel, mais vu qu'elles étaient hors cadre, eh bien on parle de magie marginale, ou éventuellement de sorcellerie ou de goétia dans le monde grec. Alors voyons quelques figures que l'histoire nous a laissées. On pourra citer, par exemple, chez les Grecs, la figure de Hécate, qui est la divinité qui est très régulièrement associée aux pratiques de la magie. On pourrait citer encore les magiciennes Circé et Médée. On pourrait citer dans la Bible la sorcière d'Endor. On pourrait citer dans le monde grec, toujours pareil, les sorcières de Thessalie, qui sont largement mises en scène dans la littérature. Alors, par exemple, avec les cas de Circé et Médée, on est sur des personnages qui ne sont pas spécifiquement des personnages historiques. On est sur des figures à moitié divinités, à moitié magiciennes, on ne sait pas trop, qui figurent d'archétypes en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les cas, par exemple, de Médée et de Circé dans la Grèce antique, nous sommes sur des personnages qui ont des pouvoirs sans commune mesure. Ces figures féminines, qui sont appelées magiciennes, hein, ou sorcières, suivant les traductions, peuvent déclencher des tempêtes, peuvent métamorphoser des individus, peuvent faire des filtres divers et variés, peuvent commander aux divinités, et donc modifier le destin avec des actions sans commune mesure. Voyez l'idée. On n'est pas du tout sur une sorcière qui va simplement maudire le champ de son voisin. On est quasiment sur des divinités, en réalité. Donc, ces figures-là, on leur prête un grand pouvoir, on les craint et on les respecte, tout simplement. Parce qu'elles sont capables d'actions directes avec les puissances divines ou maléfiques, peu importe. Mais la notion de bien et de mal est beaucoup plus complexe dans les sociétés antiques. Alors, quand on est dans les mondes égyptiens ou mésopotamiens, par exemple, on a moins de sources qui nous mettent en scène des figures comme Circé ou Médée. Par contre, on a des divinités qui sont préposées à la magie, bien entendu. On a un compte des divinités pour telle ou telle action. On a Isis, déesse de la magie, mais on peut aussi faire référence à Thoth, qui est employé dans tout un tas de rituels magiques, ou tout un tas d'autres divinités. Toutes les divinités sont incantées dans les rites magiques de l'Égypte ancienne. Et en Mésopotamie, c'est exactement la même chose. Quand on veut qu'il fasse beau, on incante le soleil, Shamash. Quand on veut que la lune dispense son pouvoir, on va appeler Sin, etc. Donc les divinités sont invoquées pour des pratiques et des actions concrètes dans l'Antiquité. Alors, c'est quoi concrètement le panel de méthodes qui sont utilisées par ces sorcières ou sorciers? Eh bien, on a évidemment, dans un sens maléfique, les tablettes de malédiction, les envoûtements, les maléfices. Mais on peut aussi trouver, dans des visions qui ne sont pas considérées comme négatives, la divination, la nécromancie ou l'usage de filtres. Alors, dans l'Antiquité, on a cette chance d'avoir un matériel archéologique assez abondant et des sources anciennes. Alors, les tablettes de malédiction, les tablettes de défection, comme on appelait dans la Rome antique, c'est une tablette en métal, en plomb parfois, où l'individu, le mage ou sorcier, va graver des symboles dessus, invoquer sur cette tablette une divinité, par exemple Pluton chez les Romains, divinité liée à la mort, afin de maudire une personne. Et on va déposer cette tablette à proximité du domicile de la personne. Le but était que le dieu de la mort puisse, on puise dans l'énergie du dieu de la mort afin d'infuser, de projeter cette puissance sur la cible. Donc, sorte, la tablette, en fait, sert de vecteur pour attirer une puissance divine vers un individu. La malédiction, les envoûtements passent par différentes méthodes. Des nœuds de cordes, par exemple, pour entraver les actions d'une personne. On va, par exemple, utiliser différentes matières, des substances naturelles, afin de créer une sorte de contagion par contamination, un petit peu contamination psychique, d'une certaine façon. Même si ça se base sur des éléments matériels. Donc, tout un tas de méthodes. La nécromancie, alors évidemment, ça peut passer pour quelque chose d'extrêmement négatif de nos jours, bien entendu, mais les méthodes de nécromancie étaient courantes dans l'Antiquité. Les gens interrogeaient les morts pour connaître les secrets de l'avenir ou du destin ou de ce qui se passait au-delà de la mort. Alors, des fois, les rituels étaient très soft. Il y avait un petit sacrifice d'un animal divers et varié devant une cavité ou une grotte afin que symboliquement les esprits des morts remontent à la surface. Puis parfois, c'était des rites beaucoup plus sordides avec des sacrifices humains, avec des rituels extrêmement scabreux, d'éterrement de cadavres, et je vous passe les détails, bien entendu. Donc la sorcellerie existe pour le meilleur et pour le pire, hein, si je puis dire, dans l'Antiquité, bien entendu. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de la sorcellerie face à la loi. Puisque, évidemment, le but de cette émission n'est pas d'expliquer spécifiquement le fonctionnement de la sorcellerie, mais de comprendre pourquoi celle-ci a été combattue au cours de l'histoire. Alors, faisons un petit topo par rapport aux différentes phases de cette chronologie. Dans l'Antiquité, il n'existe pas encore de chasse aux sorcières, au sens moderne. En revanche, il existe bien une représentation juridique de certaines pratiques magiques. Ce n'est donc pas la magie en général qui est condamnée, mais son usage considéré comme hostile. Et là, vous rappelez cette notion magie licite, magie illicite. La magie n'est pas condamnée dans sa globalité, mais seulement certaines pratiques ou certaines actions spécifiques. Ensuite, quand on va passer à la période du Haut Moyen-Âge, principalement pour l'Europe ou le berceau méditerranéen, la sorcellerie est considérée comme étant une illusion ou une superstition plus qu'un crime réel. C'est-à-dire qu'à ce stade, on ne condamne pas forcément la sorcellerie en tant que telle, mais on condamne les fausses croyances. On condamne plutôt l'hérésie, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, ou on condamne le charlatanisme, ou le fait de vénérer, en fait, des dieux païens. Pourquoi? Parce que dans la période du Moyen-Âge, sur la Méditerranée et dans l'Europe, le christianisme a fait son chemin, il s'est implanté, et donc, de ce fait, on considère que les dieux antiques sont des démons, et donc les personnes qui utilisent ces forces des anciens dieux païens, eh bien, considèrent qu'ils vénèrent des faux dieux, et donc c'est des superstitions, tout simplement. On n'a pas franchi le cap de la diabolisation, si vous voyez l'idée. Quand on va passer à la période du bas Moyen-Âge, c'est-à-dire 13, 14 et début 15e siècle, la sorcellerie devient progressivement un crime réel et diabolique, assimilé à l'hérésie. On va le voir plus en détail tout à l'heure, mais à ce stade du bas Moyen-Âge, on va considérer que la sorcière n'est plus seulement une superstition des cultes païens, mais qu'il y a l'idée de vénérer le diable. Et ça, c'est fondamental pour expliquer la chasse aux sorcières. Enfin, quand on va passer au temps moderne, la sorcellerie est perçue comme étant une menace collective organisée, justifiant les procès, les exécutions de masse. Là, on arrive dans la période du complot satanique. Alors ça, c'est très intéressant, puisque souvent, dans l'imaginaire populaire, on pense que la chasse aux sorcières, ça vient de l'obscurantisme, période médiévale, où on pourchassait tout et n'importe quoi. Ceci est parfaitement faux. La grande chasse aux sorcières a eu lieu à partir de la Renaissance et au début des temps modernes. Et c'est très important. Enfin, quand on va passer à la période contemporaine, donc c'est-à-dire à partir du 18-19e siècle, plutôt 19e, la sorcellerie sort du droit pénal et devient, ou redevient progressivement, en fait, une superstition. comme une sorte de cycle de recommencement perpétuel. Ce qui, évidemment, va nous interroger pour savoir si une chasse aux sorcières reviendra-t-elle dans les temps futurs. Eh bien, ce n'est pas à exclure. Alors, voyons un petit peu comment a été condamnée la sorcellerie au cours du temps. Puisque, il y a certaines idées reçues, encore une fois, qu'il faut déconstruire. Parfois, on imagine aujourd'hui que la sorcellerie, ça s'est plutôt bien passé partout sur la planète, mais c'est seulement en Europe, les sorcières ont été condamnées injustement par l'Église catholique, mises au bûcher, torturées, tout ce que vous voulez. Ceci est en réalité beaucoup plus complexe. Évidemment, quand je vous ai fait ce petit repère chronologique, je me suis concentré sur l'Europe et le berceau méditerranéen. Mais on va voir dans les législations envers la sorcellerie que ça n'a pas concerné que l'Europe en réalité. Alors bien sûr, je vais citer des exemples dans le monde à titre d'exemple, en me limitant bien sûr aux sources documentées que nous avons pour les lois qui encadrent la sorcellerie ou la magie plus largement. Alors voyons tout d'abord quelques interdictions par les autorités au cours du temps. La plus ancienne interdiction qui nous soit connue vient de Babylone dans le code de Hammurabi. Nous sommes au 18e siècle avant notre ère. Dans le code d'Hammurabi, l'accusation de sorcellerie est jugée par une ordalie du fleuve. Alors comment ça se passe? Eh bien, s'il y a une personne, un individu, qui accuse son voisin ou une personne du village d'être un sorcier et de lui avoir lancé un mauvais sort, et il y aura un procès. C'est défini dans le code d'Hammurabi. Et donc, la personne qui est accusée de sorcellerie va devoir se défendre. Et donc, pour se défendre, elle va devoir, en fait, accomplir une épreuve. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un crime imaginaire, entre partage de la sorcellerie, ou invisible. Donc, on ne peut pas le prouver forcément avec des faits objectifs. Donc, on est obligé de se remettre aux dieux. Et donc, là, il faut faire une épreuve, une ordalie. Alors, par exemple, la personne va devoir nager dans le fleuve sur une distance très très importante, et réussir et s'en sortir vivant. Alors, la personne qui est accusée va pouvoir choisir un champion qui va nager à sa place. Donc, il y avait des coureurs professionnels, hein, ou des nageurs professionnels à cette époque pour les ordalies. Et donc, la personne qui va faire l'ordalie va devoir nager. Si jamais la personne meurt lors de la nage, eh bien, la personne accusée de sorcellerie est déclarée coupable et mise à mort. Mais si inversement, l'épreuve est accomplie positivement, eh bien, c'est la personne qui a accusé de sorcellerie qui a fait une fausse accusation, et c'est elle qui sera mise à mort ou condamnée, en l'occurrence. Donc, vous voyez, la sorcellerie était déjà encadrée par la loi dans une certaine mesure. Mais comprenez, la sorcellerie dans un usage négatif, uniquement. Alors, on va trouver, toujours en Mésopotamie, des lois médio-assyriennes au XVIIe-XVIIIe siècle. On va trouver encore des codes spécifiques qui vont avec le rituel du maklou, en l'occurrence toujours en Mésopotamie, entre le XIIe et le XVe siècle. Et puis on va trouver dans le monde hébraïque une interdiction explicite, judiciaire peut-on dire, de la sorcellerie, avec plusieurs passages dans l'Exode, dans le Deutéronome, le fameux passage de l'Exode 22-10. « Tu ne laisseras point vivre la magicienne », là c'est clair. Et puis dans le Deutéronome, on nous dit très clairement qu'il faut mettre à mort les devins, les astrologues, les sorciers, les nécromants, etc., etc., et toutes les pratiques de magie dans sa globalité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a une rupture. En Mésopotamie, avant, on condamne la mauvaise magie, la magie noire, pourrait-on dire. Alors que dans le monde hébraïque, on condamne toute forme de magie, quelle qu'elle soit. Il est interdit d'utiliser les forces de l'invisible, même pour une bonne action. Alors ça, c'est une rupture très franche, puisque le peuple hébreu, le peuple juif dans la Bible, et le premier peuple de l'histoire qui nous soit connu a condamné la magie dans sa globalité. Maintenant, pour faire un petit tour dans le monde grec, au 5e siècle avant notre ère, à Athènes, il y a des lois contre les pharmakas, c'est-à-dire des personnes qui sont accusées d'empoisonnement, notamment avec des méthodes magiques. On va trouver à Rome la loi des 12 tables, au 450 avant notre ère, où on a une condamnation de certaines pratiques de magie, mais magie illicite. Comprenez que à Rome, et dans la Grèce antique, on condamne pas la magie dans sa globalité, mais on condamne la magie quand elle va nuire à la société ou au bien commun. Vous faites votre petit rituel de divination dans votre jardin, ça embête personne, personne va venir vous embêter. Vous faites votre rite de nécromancie de façon sobre, et chez vous, vous embêtez personne, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous commencez à aller déterrer des os dans un cimetière, et que la famille dont la sépulture a été profanée, ils vont mal le prendre. Ça va créer du trouble. Donc ça, on condamne, évidemment. Pareil, si quelqu'un veut faire une méthode de divination et va faire un sacrifice humain avec le gamin de son voisin, ça va poser problème, vous vous doutez. Et donc, naturellement, ça, c'est interdit, vous vous doutez. Et heureusement, d'une certaine façon. Donc, si vous êtes un devin, vous faites des prédictions, mais que vous annoncez la mort du roi de Rome à cette époque, bah, ça va créer du trouble social. Donc, c'est interdit. En fait, c'est du bon sens logique et légal, d'une certaine façon. On condamne ce qui nuit à l'ordre public. Et le reste, bah, y a aucun problème. Donc, rien à voir avec la Bible hébraïque. Maintenant, on va trouver, par exemple, aussi en Inde, en 200 avant notre ère, des lois de Manu qui condamnent certaines pratiques magiques de magie nuisibles. Donc, c'est toujours pareil qu'à Rome. En fait, on condamne la mauvaise magie. On va trouver, après, plus tard, au 4e siècle après Jésus-Christ, donc de notre ère, dans l'Empire romain, le code de Théodose. Et là, c'est une condamnation à mort des pratiques magiques jugées nuisibles. Donc là, c'est important, parce que vous voyez, on est, au niveau du code de Théodose, l'Empire romain est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. Donc il y a un passage, donc l'abandon des cultes païens, donc où la magie était plus ou moins omniprésente. Et là, à partir du code Théodose, on condamne certaines formes de pratiques magiques, mais pas encore la magie dans sa globalité. On condamne certaines pratiques qui nuisent au bien commun ou qui sont déclarées illicites. Donc on voit un passage progressif entre le droit romain, puis l'adoption progressive des anciens modèles de loi hébraïques, si je puis dire, via le christianisme, hein, bien sûr, qui vont faire que progressivement toute la magie va être interdite, pas uniquement la magie dite nuisible, bien entendu. On observe dans le monde islamique, donc à partir du 8e siècle, une condamnation de la shir, c'est-à-dire la sorcellerie, dans le droit religieux. Dans le monde musulman, ça reprend le même modèle que la loi juive. La magie, sous toutes ses formes, est interdite. Comprenez magie, le commerce avec les djinns, les pratiques de sollicitation des forces de l'invisible, les filtres, etc. Dans le monde musulman, ceci est totalement interdit, comme dans la loi juive. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie. Toute la magie est mauvaise. Pour citer un petit exemple exotique, au Japon, au 8e siècle, vous avez trouvé le code des Ritsuryo, dans la période de Nara. Alors, il y a en fait au Japon à cette époque une sorte de ministère de la magie qui sera créé, qui s'appelle l'Omnyoryo, le bureau des affaires du Yin et du Yang, où en fait on va encadrer les pratiques de bonne magie et de mauvaise magie, les gens qui se comportent bien ou qui nuisent au bien commun. Donc c'est pas une condamnation globale, encore une fois, c'est litoire, magie illicite, et on encadre tout ça. Mais il n'y a jamais eu de condamnation à mort ou de sévices particulières, c'était un encadrement et pas du tout une méthode répressive, bien entendu. Et par exemple, pour citer, au 15e siècle, dans l'Empire aztèque, on trouve également des lois contre les sorciers, les Nahuatli, qui utilisent des maléfices et les peines de mort sont attestées. Donc, vous voyez, les interdictions de la magie n'est pas propre au christianisme, au judaïsme, à l'islam, il en existe ailleurs, mais avec cette distinction entre magie licite et magie illicite. La condamnation globale de tout fait magique ou de sorcellerie est une spécificité des religions abrahamiques. Alors, voyons quelques exemples de procès au cours de l'Antiquité. Pourquoi je fais ça? On est loin de la chasse aux sorcières, bien sûr, mais c'est pour vous montrer que des condamnations et des mises à mort pour usage de sorcellerie ont existé bien avant la grande chasse aux sorcières, et surtout, pas uniquement en Europe, comme nous allons le voir. Alors, tout d'abord, la plus ancienne condamnation qui nous soit connue remonte à l'an 1155, c'était en Égypte. Il y avait un complot contre le harem de Ramsès III, et on a suspecté des pratiques de filtre et d'empoisonnement par nature magique. Il y a eu 28 exécutions et 10 suicides. Alors suicide, comprenez, c'est des gens, on leur a demandé de se suicider. Voyez l'idée. Aussi, ensuite, dans le monde grec, on a, au 4e siècle avant notre ère, le procès de Théoris de Lemnos, qui est une femme présentée comme une magicienne ou une guérisseuse qui a été condamnée et exécutée avec ses enfants, et c'est le cas antique le mieux attesté. Alors là, vous avez une femme qui a probablement été sollicitée pour des usages de magie noire, en l'occurrence. Évidemment, ça trouble l'ordre social. Donc, il y a eu un procès et une condamnation pour usage de magie. Usage de magie. Et même ses enfants étaient condamnés. Pourquoi? Eh bien, parce que on considérait que ses dons étaient héréditaires. Donc, si la femme s'était mal comportée, ses enfants allaient probablement se mal comporter et ils ont passé aussi. Alors évidemment, ça peut sembler extrêmement raide par rapport à notre morale actuelle, mais c'était extrêmement courant dans l'Antiquité hein, qu'une personne condamnée, eh bien condamnait aussi sa descendance, c'était extrêmement fréquent dans l'Antiquité. Mais donc là, c'est un cas ancien de condamnation pour sorcellerie. Comprenez, c'est ceux qui nous sont parvenus. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, bien entendu. Seulement, on ne sait pas dans quelle mesure et en quelle quantité. On pourrait citer rapidement En 331, à Rome, les affaires des empoisonnements, environ 170 femmes accusées de sorcellerie d'empoisonnement par sorcellerie, certaines condamnations, hein, bien entendu. Pour citer en 186 l'affaire des Bacchanales. Alors les Bacchanales, ce n'est pas de la sorcellerie à proprement parler, mais il y a eu des milliers d'arrestations et quelques centaines d'exécutions, probablement. Les Bacchanales s'incluent dans le culte à mystère de Dionysos et il y a des pratiques rituelles spécifiques. Alors c'est pas de la magie à proprement parler, mais c'était des pratiques qui étaient en marge du culte classique. Donc du coup, il y a eu des interdictions et des condamnations. En 91 avant notre ère, en Chine, dans la dynastie Han, il y a eu des accusations de magie et de malédiction à la cour, des exécutions massives, plusieurs milliers de victimes selon les chroniques de l'époque. En 81 avant Jésus-Christ, il y a eu, toujours à Rome, plusieurs condamnations pour usage de poison et de magie. En 19 après Jésus-Christ, de notre ère, il y a eu encore quelques condamnations de magie qui sont attestées. Plus tard, en Chine, cette fois-ci, en 40-41, il y a eu toujours des accusations de malédiction contre l'empereur et des exécutions et de purges politiques. Plus récemment, en 158-159, il y a eu le célèbre procès de Apulée. Alors, Apulée était un philosophe, auteur de l'Empire romain, qui était né en Afrique du Nord, qui était lui-même un initié aux différents cultes à mystère, et on a accusé Apulée d'avoir envoûté une femme pour l'épouser, pour obtenir un peu plus de confort matériel. Il y a eu un procès assez long qui est bien documenté, et finalement, Apulée a été disculpé de ses accusations. Donc, ça existait, voyez-le. Et puis, après, il y a eu commencé à avoir quelques vagues de persécution des devins et des magiciens, notamment sous Valens dans l'Empire romain. Alors, allons plus loin et voyons quelques exemples de procès qui ont lieu entre le 6e et le 19e siècle, donc c'est-à-dire du Moyen-Âge et jusqu'au temps moderne, hors de la chasse aux sorcières d'Europe. Puisque si on connaît très bien la chasse aux sorcières européennes, eh bien, force est de constater qu'il y en a eu un petit peu ailleurs. Alors, pour citer très rapidement, sinon ça va être très long, comprenez qu'entre le 7e siècle et entre le 19e siècle, c'est-à-dire dans toute la période de l'histoire de l'islam, il y a eu des condamnations de sorcellerie dans le droit religieux et donc des exécutions et des condamnations et des persécutions tout au long de l'histoire de l'islam. C'est moins documenté, mais on a quand même un paquet de personnes qui ont été victimes de l'accusation de sorcellerie. En Inde, c'est arrivé, il y a eu des accusations de sorcellerie et puis évidemment des exécutions. C'est arrivé dans l'Empire aztèque, au 15e siècle, c'est arrivé dans l'Empire Inca, c'est arrivé en Corée, dans la dynastie Joseon, où il y a eu encore une fois des condamnations pour sorcellerie, c'est arrivé en Afrique de l'Ouest, c'est arrivé dans l'Empire Ottoman, c'est arrivé en Indonésie, Malaisie, donc là on est dans le monde musulman hein, comme l'Empire Ottoman, c'est arrivé dans le Royaume du Congo, c'est arrivé en Angola, Congo, c'est arrivé dans le monde persan, à la période de l'islam bien évidemment, hein, où des accusations de magie, et c'est arrivé en Afrique centrale, bien entendu. C'est moins documenté, on n'a pas de statistiques et de chiffres pour comprendre l'ampleur de ces phénomènes, mais comprenez qu'on peut imaginer que vu la durée de ces différents empires ou de ces différents pouvoirs, vu le type de fonctionnement des sociétés, on peut, sans trop prendre de risques, on peut considérer quelques dizaines de milliers de personnes qui ont été accusées, condamnées et mises à mort pour accusations de sorcellerie au cours de l'histoire. Hors de l'Europe, bien entendu. Alors maintenant, voyons quelques exemples de procès dans le monde contemporain. Contemporain, c'est-à-dire de nos jours. Ça existe en Afrique subsaharienne. Il y a des accusations liées à la maladie, à la mort, à la réussite sociale, au lynchage, etc. Tout ça. En Tanzanie, en République démocratique du Congo, en Somalie. Ça existe encore en Inde. Ça existe évidemment au Pakistan, ça existe en Afghanistan, ça existe en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, un petit peu en Égypte, un petit peu en Algérie et au Maroc, même si pour l'Égypte, Algérie, Maroc, c'est quand même beaucoup moins présent. Alors pourquoi y a-t-il ces condamnations encore dans le monde aujourd'hui? Eh bien, quand une personne tombe malade, eh bien, parfois on accuse la sorcière du village d'être responsable. Quand il y a un malheur en Égypte, une sécheresse, enfin en Afrique, une sécheresse, quoi que ce soit, eh bien, on va trouver un coupable et c'est probablement de la sorcière. Donc aujourd'hui, comprenez-le, si aujourd'hui en Europe, plus personne n'est condamné pour sorcellerie et personne ne finit sur le bûcher pour sorcellerie en Europe de nos jours, il y a des endroits où le monde, dans le monde, aujourd'hui, où cela arrive encore. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que parfois on dit « Ah, l'Europe, c'est horrible, la grande chasse aux sorcières ». Oui, c'est horrible, on va en parler dans toute la deuxième partie, mais comprenez que la chasse aux sorcières, ça ne se limite pas en réalité à l'Europe, et que de nos jours encore, ça existe hors de nos contrées. Donc, ne mettons pas la poussière sous le tapis. Maintenant, tentons de voir un petit peu qui sont concrètement ces sorcières. Eh bien, le terme va désigner des individus supposés détenir un savoir occulte en lien avec des forces invisibles. Esprit, démon, divinité, puissance surnaturelle. Le cadre de croyance des personnes accusées de sorcellerie. Souvent, ce sont en lien avec des traditions païennes, des croyances populaires et des pratiques en marge du christianisme. Le lien avec le satanisme, lui, est une construction beaucoup plus tardive, comprenez-le. Parmi les figures féminines qu'on va accuser de sorcellerie, il y a souvent des vieilles femmes isolées, des guérisseuses, des chasse-femmes, des veuves, des femmes séduisantes, des jeunes femmes perçues comme dangereuses. Au niveau des figures masculines, puisque en fait il y a aussi des sorciers, on va trouver les astrologues, alchimistes, magiciens, devins, etc., etc. Mais ceux-ci sont moins associés à la marginalité que les femmes. Donc, là, la figure de la sorcière, c'est surtout celle qui est visible dans le monde chrétien de l'Europe. Dans l'Antiquité, le sorcier ou la sorcière était souvent une personne en marge, une personne inquiétante. Alors quand je dis sorcière, je parle de la personne qu'on soupçonne de faire de la magie illicite, comprenez-le. C'est une personne en marge de la société, qui est hors des codes sociaux, qui vit dans sa grotte. Une femme dont ses trois maris sont morts, par exemple. Souvent la personne est accusée de sorcellerie, enfin la femme est accusée de sorcellerie. Mais évidemment, par la suite, la sorcière, ça devient la personne qu'on a du mal à contrôler, en réalité. Alors, je vous ai dit, les figures, souvent, les personnes qui sont accusées de sorcellerie, la vieille femme. Pourquoi la vieille femme? Eh bien, elle vit dans sa grotte, elle fait ses petits filtres, elle fait ses tisanes, on va la voir parce qu'elle connaît bien les plantes, on va la voir parce que on a des problèmes et on lui demande conseil. Eh bien, cette femme à qui on demande conseil toute l'année, le jour où on a un problème, elle devient une cible immédiate. Pourquoi? Parce qu'elle détient un savoir que les autres n'ont pas. Et le savoir, c'est le pouvoir. Donc on a peur du savoir que l'on ne connaît pas. Donc la femme marginalisée, la vieille femme marginalisée, c'est une victime idéale. Les jeunes femmes séduisantes. Eh bien, les jeunes femmes séduisantes, elles attirent les convoitises des hommes. Et donc, cela crée des ressentiments, cela crée de la jalousie de la part des hommes éconduits, mais aussi des autres femmes qui sont jalouses de sa beauté. Donc il n'est pas rare que les femmes un peu trop jolies, eh bien on les accuse de quelques sortilèges en lien avec le diable. Ça viendra par la suite. Ensuite, il y a les personnes qui ont des métiers en lien éloigné avec la sorcellerie. Les sages-femmes, les accoucheuses, les donneuses de vie, mais aussi les guérisseuses. Vous avez la guérisseuse qui soigne depuis toujours, avec des potions, des filtres et tout un tas de méthodes diverses et variées qu'on ne comprend pas trop. Les gens du village vont la voir. Puis, des fois, la guérison ne marche pas, ou il y a une épidémie. Eh bien, on est toujours sur la notion du savoir occulte. Cette guérisseuse, elle soigne les gens. Mais n'aurait-il pas, en arrière-plan, des idées plus sombres? Et donc, ces mêmes personnes qui vont la solliciter pour se soigner, eh bien, un jour se retourneront peut-être contre elle en l'accusant de provoquer le mal. Donc, les guérisseuses sont des cibles idéales, puisqu'on les accuse d'être en lien avec des forces pas forcément catholiques. Par exemple, des dieux païens des anciens temps, et plus tard qui deviendra le diable, bien entendu. Donc, on la sollicite, mais quand il y a des problèmes, bah, elle commerce avec le diable, peut-être. Donc, de ce fait, on l'accuse. La sage-femme, évidemment, on en a bien besoin. Elle donne la vie. Mais le jour où le bébé meurt, eh bien, on va accuser quelqu'un. Et donc, on va accuser la sage-femme d'avoir offrir l'enfant pour ces dieux païens, un sacrifice humain, ou au diable. Donc c'est toutes ces figures, un peu de femmes en marge, qui sont les victimes idéales de la sorcellerie. Alors on ne peut pas les citer toutes, évidemment, il y en a des dizaines de milliers au cours de l'histoire. Mais on va citer quelques exemples de ces femmes qui ont été persécutées avec quelques cas qui illustrent. On a tout d'abord Alice Kistler. Elle a été condamnée pour sorcellerie en Irlande en 1324. Heureusement pour elle, elle a fui avant son exécution. C'est sa servante qui a été exécutée à sa place. Alors c'était intéressant parce que c'était une femme de la noblesse ou une propriétaire terrienne et elle a été accusée d'invoquer des démons. Alors on ne sait pas trop comment toute cette histoire s'est passée, mais il semblerait que cette dame ait été mariée plusieurs fois et que ses époux ont passé de vie à trépas. Alors on l'a rapidement accusée. Alors c'est les familles des maris, les familles des autres enfants des précédents mariages, qui ont accusé la femme en fait d'avoir assassiné ses maris au moyen de méthodes magiques pour l'héritage. On a Jeanne de Briges. Alors, celle-ci, c'était une devineresse ou une guérisseuse. Elle soignait les gens, elle voyait l'avenir, elle était sollicitée pour cela. Et puis, un jour, on l'a accusée de pacte avec le démon, que ses pouvoirs venaient du démon, et elle a été accusée de sorcellerie pour cela et amenée au bûcher. On a Antoinette Villard en Savoie. Eh bien, elle, c'était probablement une paysanne, et elle a été accusée de sorcellerie, de se rendre au sabbat, etc., etc. Cette femme a été torturée, on lui a arraché ses aveux, et elle a avoué voler la nuit, se rendre au sabbat et copuler avec le diable. Elle a avoué tout ça, évidemment, sous la torture, et finira exécutée. Rosette Curtet, c'est un petit peu le même procédé, c'était une paysanne pauvre, évidemment, et qui, sous la torture, a confessé tout un tas de crimes. On a Ursula Kemp, elle, c'était une sage-femme et une guérisseuse. Mais un jour, les choses ont probablement mal tourné et elle a été accusée par ses voisins d'avoir causé des infirmités et des morts par magie. Elle avoua sous la pression et fut exécutée. Elizabeth Sawyer, une pauvre femme, une vieille femme marginalisée. Elle a été décrite comme une femme isolée, agressive pour son entourage. Et évidemment, son comportement va faire que ses voisins vont la dénoncer pour pratique de sorcellerie et elle sera pendue. Isabeau Chainé, eh bien, elle, c'était une paysanne qui, toujours le même modèle, sous la torture, a avoué tout un tas de crimes. Un cas très intéressant qui m'a toujours tenu particulièrement à cœur, c'est Jeannette d'Abadie. Elle, c'était une jeune femme, peut-être un peu trop jolie, qui a été exécutée, probablement sur le bûcher, bien qu'on n'en a pas des traces exactes. Eh bien, Jeannette d'Abadie, elle, a été accusée d'être une sorcière par Pierre de Langres, le juge magistrat qui enquêtait dans la région. Et évidemment, sous la torture, elle a avoué avoir copulé avec le diable. Elle a avoué des rapports charnels extrêmement complexes avec le diable. Et puis, elle a été suspectée, alors c'est une chose intéressante, parce qu'elle mangeait des pommes. Alors du coup, elle était peut-être un peu trop jolie, mais elle mangeait des pommes. Alors Pierre de Langres, lui, il s'est dit, la pomme n'est pas anodin, la pomme. Puisqu'à cette époque, on associait la pomme au fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Bible. Alors les mangeuses de pommes étaient suspectées d'être un peu comme Ève, de se laisser séduire par le démon. Alors Jeannette d'Abadie, elle a été accusée parce qu'elle mangeait des pommes et peut-être un peu trop jolie, a été torturée et probablement mise à mort, puisqu'elle a évidemment avoué à peu près tout et n'importe quoi sous la torture. Ce grand malade qui était Pierre de Langres pensait même que les sorcières avaient une sorte d'organe démoniaque à l'intérieur du corps qui se déplaçait au gré de ses humeurs. Alors du coup, il a pratiqué des autopsies sur des sorcières. Enfin, quand je dis autopsie, ce n'est pas le bon terme, puisqu'en réalité, il faisait ça quand elles étaient encore en vie. Donc il découpait des femmes pour tenter d'illustrer ses croyances absurdes, bien entendu. Donc vous voyez, c'est joyeux, la chasse aux sorcières. Donc ce ne sont évidemment que quelques exemples de paysannes, de sages-femmes, de devineresses, de prêtresses ou de jeunes femmes un peu jolies qui ont été accusées de sorcellerie. Mais alors qui sont ces accusateurs? Eh bien les accusateurs, ce ne sont pas uniquement les autorités religieuses et politiques, ce sont avant tout des figures locales. Les premiers accusateurs des sorcières, ce sont les membres de la communauté, les voisins, la famille, les représentants du pouvoir local, les curés, les individus s'estimant lésés. Alors en fait, c'est qui ces voisins? Eh bien, on accuse la jeune femme un peu trop jolie parce qu'on est une autre jeune femme jalouse. On accuse son voisin d'être un sorcier parce que ses terres prospèrent et pas les nôtres. On accuse la sage-femme d'être une sorcière parce que l'enfant est mort pendant l'accouchement. On accuse son voisin parce qu'on a un conflit commercial sur le bornage des terres. On accuse un forgeron voisin, puisque il vend un peu cher ses outils de forge, et puis du coup, on n'a pas trop les moyens. Alors on l'accuse de sorcellerie, puis après tous ses biens seront dilapidés, donc on va en récupérer quelques-uns. Le voisinage accuse pour tout un tas de raisons, querelle familiale, querelle de propriété, querelle financière, querelle de mariage, sans fin, évidemment. Évidemment, on accuse aussi parce qu'à un moment, quand on a peur, quand on cherche des coupables à nos propres problèmes, on va accuser un bouc émissaire. L'étranger de passage, la vieille femme dans la forêt, la personne qui ne vient pas à la messe le dimanche. Attention. Donc tout un tas de motifs d'accusation. Les premiers accusateurs des sorcières, ce sont l'entourage immédiat. Ne l'oubliez jamais, le premier accusateur de la sorcière, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les autorités politiques, c'est l'entourage immédiat. Mais évidemment, ça n'excuse pas les autres pour autant. Ensuite, vous allez trouver les autorités religieuses, les clergés locaux, les inquisiteurs et les théologiens, puis les autorités judiciaires, les juges, les juristes, les magistrats, les tribunaux laïcs. Tout d'abord, dans la Bible, il y a évidemment des condamnations directes. Nous sommes dans le modèle abrahamique, je vous rappelle, Exode 22-18, tu ne laisseras point vivre la magicienne, ou encore les textes du Deutéronome. Dans l'islam, on va trouver de nombreux hadiths qui disent d'éviter et qui condamnent la sorcellerie. Je cite par exemple, la peine du sorcier est qu'il soit frappé par l'épée. Et là, c'est très clair, éliminer les magiciens. Mais évidemment, dans le monde qui va nous intéresser, c'est-à-dire celui de la grande chasse aux sorcières, on va trouver des auteurs ecclésiastiques et des juges et magistrats qui ont écrit de nombreux textes sur la sorcellerie. Les plus connus, hein, Jean Bodin, Pierre Delancre, Henri Boguet, Nicolas Emmerich, Heinrich Kramer et son célèbre Malleus Maleficarum, ils sont évidemment innombrables. Je vous ai mis ici en référence les textes les plus connus. Là, avant d'entrer dans notre deuxième partie d'émission, il convient d'être précis sur un point. Lorsque la grande chasse aux sorcières de l'Europe va avoir lieu, entre le 15e siècle et le 18e siècle, l'immense majorité des accusations viennent des tribunaux laïcs. Ce ne vient pas des autorités ecclésiastiques. Attention, dans un premier temps, les ecclésiastiques vont mettre en scène la sorcellerie. Ils vont, comme vous allez le voir, faire une jonction, un glissement entre l'hérétique, qui ont été pourchassés par les autorités religieuses, les inquisiteurs, qui va glisser progressivement, l'inquisition va se concentrer sur la sorcellerie. Et au bout de 50-100 ans, c'est les tribunaux laïcs qui vont prendre le pas. C'est des juges et des magistrats, Jean Bodin, Henri Boguet, Pierre Delancre, etc. Ce ne sont pas des ecclésiastiques, ce sont des juges. Et c'est eux qui vont écrire les plus grands traités de démonologie. On va les appeler les démonologues, tout simplement. Donc, si l'Église a sa part de responsabilité dans la chasse aux sorcières, il n'empêche que le gros des accusations vient majoritairement des tribunaux laïcs, en l'occurrence. Alors, nous allons pouvoir entrer maintenant donc dans cette deuxième partie, la chasse aux sorcières, de l'hérésie à la sorcellerie, puis l'invention du complot satanique, puis l'hystérisation de la peur, l'apogée des persécutions et finalement de la sorcellerie à la superstition ou comment le cycle va se refermer. Nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous rappelle, comme à l'habitude, que la vidéo complète est accessible aux contributeurs de la Web TV, ceux qui me soutiennent sur YouTube ou sur Tipeee, et si vous aussi vous avez le désir de soutenir la Web TV et d'accéder possiblement à cette émission, eh bien vous avez les deux options, vous pouvez vous rendre sur le site Tipeee, faire un tip minimum de 5 euros, me spécifier le titre de l'émission auquel vous souhaitez accéder, par exemple aujourd'hui le cycle des inquisiteurs, la chasse aux sorcières, mais ça peut être évidemment toutes les autres émissions bien entendu, et sur YouTube, eh bien c'est plus simple ou plus immédiat d'une certaine façon, il vous suffit de devenir membre souscripteur au tarif arcaniste et dans les vidéos réservées aux membres, vous aurez accès à la dernière vidéo de l'Académia. Petite différence importante entre les deux systèmes, sur YouTube, vous avez un accès immédiat à la vidéo, mais ce pendant un mois durant, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de la prochaine Académia qui va remplacer celle qui sort maintenant, alors que sur Tipeee, une fois que vous avez accès, eh bien, il est définitif. Donc vous avez les deux systèmes, c'est suivant vos préférences de fonctionnement, en fait, vous l'un ou l'autre, bien entendu. Dans tous les cas, je remercie très 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 chaleureusement tous ceux qui me soutiennent évidemment sur ces deux systèmes. C'est grâce à vous que la Web TV existe et que je peux continuer à vous proposer des missions. Et en parlant justement des Académias, eh bien la prochaine fois, vous aurez un nouvel épisode de la série sur les évangiles apocryphes qui sortira en avril. Et pour le mois de mai, vous aurez le troisième épisode du cycle des Inquisiteurs, où cette fois-ci nous parlerons de la chasse aux sciences occultes ou la chasse aux occultistes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne Arcana les Mystères du Monde. À très bientôt.